cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaida et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie.
Amen.
Amen.
Que sa parole soit bénie. Vous asseoir. Ce que j'aimerais nous faire comprendre, frères et sœurs, c'est le fond de l'enseignement qu'il y a dans cette histoire. La Bible nous dit qu'il y avait une piscine à Jérusalem qui s'appelait Bethesda, qui veut dire la maison de miséricorde. Maintenant, la particularité de cette piscine, c'est que cette piscine-là n'était pas comme les autres piscines. Apparemment, c'était une piscine qui bénéficiait du regard et de la faveur divine. Parce que je ne pense pas que c'était à toutes les piscines d'Israël qu'un ange pouvait descendre, secouer l'eau et repartir dans les cieux. Donc ça veut dire que c'était une piscine qui bénéficiait d'une certaine faveur de Dieu. Maintenant, la particularité de cette piscine, c'est qu'un ange descendait pour agiter l'eau. Mais le mouvement de l'ange sur l'eau de la piscine n'était pas un mouvement perpétuel. C'était un mouvement circonstanciel, un mouvement saisonnier. Et la Bible nous révèle que lorsque le mouvement se faisait, alors tous ceux qui étaient malades, quelle que soit leur maladie, obtenaient leur guérison. Mais j'aimerais attirer notre attention sur deux choses. La Bible dit que les gens qui étaient à cette piscine, premièrement, attendaient le mouvement de l'eau. Donc je parle ici d'abord d'une attitude. Ils étaient dans l'attente de quelque chose. Ils étaient en train d'attendre le mouvement surnaturel dans l'eau. Deuxième chose, après, quand il y a eu le mouvement, après l'attitude, il y a eu une action qui devait se faire. Donc, l'attitude, c'est s'attendre au mouvement de l'eau. Mais l'action, c'est que lorsque l'eau se mettait en mouvement, il fallait se jeter dans la piscine. Et ce sont deux éléments fondamentaux que je vais devoir nous interpeller là-dessus, afin que pendant ces quelques jours ensemble, que vous ne puissiez pas rater le temps de votre visitation. Ce séminaire n'a pas été programmé ici par hasard. Ça fait des mois et des mois que vous êtes en train de prier pour ce séminaire. Et ça fait des mois et des mois que j'ai la pensée de ce séminaire depuis la France et je prie pour cela. Donc ça veut donc dire théoriquement que si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes en train de vous attendre à quelque chose. Vous n'êtes pas ici juste pour suivre un mouvement, mais vous êtes là parce que vous vous attendez à ce que Dieu vous visite. Maintenant, lorsqu'il y aura le mouvement, parce que je crois qu'il y aura le mouvement. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est qu'il faudra que vous puissiez agir par rapport à votre situation. La prédication de l'évangile agitera les eaux assurément en ces lieux. La révélation de la parole de Dieu agitera les eaux assurément. Les temps de louange, d'adoration changeront l'atmosphère spirituelle. Ça veut dire que les eaux sont agitées. Mais lorsque les eaux seront agitées à travers la parole qui sera prêchée, à travers la louange qui sera faite, agissez en conséquence. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui se précipite à imposer les mains aux gens. Mais je suis un prédicateur qui suscite la foi pour que vous-même vous rentrez dans votre miracle. Et pendant ces 4 jours, je me donne le devoir de susciter votre foi par la prédication de la parole. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Alors pendant ces quelques jours, la parole que vous allez écouter, vous allez entendre, va certainement remuer quelque chose en vous. Alors à ce moment-là, saisissez la grâce de Dieu. Et laissez-vous être touché par la grâce
de Dieu.
Mais ça va commencer d'abord par une attitude intérieure. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené en
série?
Parce que si vous ne vous attendez pas à Dieu, Dieu ne fera rien. N'avez pas faim et soif, rien ne va se passer. Mais si vous avez cette faim, cette soif, cette détermination, il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas repartir la même personne. Si vous êtes déterminé, alors il sera fait selon votre foi. Parce qu'il est le consommateur de la foi. C'est la foi qui le pousse à agir et à intervenir. Lorsqu'il y a la foi, tu interviens, tu agis. Donc, pendant ces quelques jours, frères et sœurs, encore une fois, je prie que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Parce que nous vivons des temps où Dieu veut restaurer les hommes. L'eau sera en mouvement, même seulement dans l'adoration. Que le groupe va certainement élever vers le Seigneur, certainement que j'élèverai vers le Seigneur. Lorsque au plus profond de vous, vous serez convaincu que l'atmosphère a changé. Ça veut dire que les eaux sont en mouvement. Quand l'atmosphère change dans un regroupement chrétien, que ce soit pendant le temps de louange, pendant le temps de prédication, ça veut dire que l'eau est en mouvement. Et c'est là où chacun de vous doit exprimer sa foi. Je prie qu'il en soit ainsi. Toi qui es là. Dis à ton voisin, dis à ta voisine. Ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a une parole pour toi. Le temps de la promesse et de la fécondation. Nous parlerons des mystères qui sont liés à la parole de Dieu. Parce que toutes ces choses que nous allons évoquer prendront leur source de la parole. Par définition, les promesses, c'est un ensemble de paroles que vous recevez. Donc vous comprenez que les promesses, c'est la parole. Donc c'est la parole, encore une fois, qui est au départ. C'est un ensemble de paroles que vous recevez, mais qui n'ont pas des effets immédiats, mais qui ont des effets dans un futur court ou bien lointain. Mais à la base, c'est un ensemble de paroles. Et ces paroles que vous allez recevoir, elles vont donner naissance à un élément fondamental et capital, ce que nous appelons l'espérance. Parce que l'espérance naît de la promesse. Lorsqu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas d'espérance. Et lorsqu'il n'y a pas d'espérance, il n'y a plus de raison de vivre. Le monde nous dit que l'espérance fait vivre. Et c'est vrai. Parce que lorsque un homme, une femme a perdu tout espoir de vivre, c'est terminé. Pourquoi j'ai une parole pour cette assemblée. Une parole particulière pour cette assemblée en dehors de du message global de ce séminaire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis son accent là-dessus, mais c'est parce qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de cette parole. Allons dans le psaume 42. Et ce qui se passe dans ce psaume, c'est le soupir de beaucoup de cœurs dans cette assemblée. Le verset 6. Et après le verset 6, on va sauter directement le verset 9 jusqu'au verset 12.
Amen. Le verset 6. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon rocher. Verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes sons se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'abattu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu.
Amen.
Amen.
Donc, l'introduction que je veux faire ce soir veut tout simplement nous dire, espère encore, car tu le loueras encore. Pourquoi? Voilà un homme qui vit des situations difficiles et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Il dit, mais le jour, l'été, l'Éternel m'a accordé sa grâce. Il est en train de parler au passé. Voilà quelqu'un qui, dans son passé, vivait la grâce de Dieu. Voilà quelqu'un qui, dans son passé, vivait la faveur de Dieu. Mais aujourd'hui, cette personne ne comprend plus ce qui se passe dans sa vie. Pendant que cette personne vivait la grâce de Dieu la journée, tellement qu'il était rempli de joie de ce que Dieu faisait dans sa vie, il dit la nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il parle au passé. Parce que dans son passé, il a vu la main de Dieu. Dans son passé, il a vu les interventions divines. Dans son passé, il a vu la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, cette personne ne comprend pas pourquoi tout va mal. Pourquoi les choses ne marchent plus. Pourquoi je me sens si abattu. Pourquoi tant de défis. Pourquoi tant de difficultés. Et la personne se pose des questions jusqu'à dire à Dieu, pourquoi m'oublies-tu? C'est une parole appropriée pour vous. Hein. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi. Ça veut dire que dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes qui sont arrivés dans la phase des pourquoi, pourquoi et pourquoi. Vous êtes en train de questionner Dieu parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Pourquoi, Seigneur, cela m'arrive? Pourquoi je souffre autant? Mais ce qui est grave, que vous êtes arrivé même à dire à Dieu qu'il vous a oublié. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi? À cause de la souffrance. À cause de
Dieu.
Pourquoi m'oublies-tu,
Seigneur?
Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Les gens qui t'entourent, qui ne prient pas, ne comprennent pas ce qui t'arrive. Parce qu'ils t'ont vu quand tu étais hier. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, ils ne comprennent plus. Mais toi, tu nous parlais de ce Dieu-là. Tu chantais ce Dieu-là. Quand on te voyait, il y avait la louange dans ta bouche. Mais aujourd'hui, tu marches le visage à terre. Aujourd'hui, lorsqu'on te regarde, on voit que la tristesse est sur la tristesse. Où est ton Dieu? Ce Dieu-là que tu célébrais autrefois, dont tu aimais témoigner, parler de sa grandeur. Où est ton Dieu? Et avec ce que les gens disent à ton sujet, ça vient encore mettre le couteau dans la plaie, tu souffres davantage. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est pourquoi la promesse donne le sens à l'espérance, c'est vrai. Mais j'aimerais quand même parler d'un élément que nous négligeons, qui lui aussi devrait normalement nous donner de l'espérance, mais nous ne réalisons pas. Je vais vous parler de votre souffle de vie. Vous avez le souffle de vie. Est-ce que vous savez que le fait de vivre, c'est une grâce de Dieu? Est-ce que vous pensez que vivre c'est une habitude? Si je vais vous dire ce soir, qui de vous à moi a la maîtrise de son lendemain? Personne ici ce soir ne sait si demain il se réveillera. Ce n'est pas un acquis à la vie. Ne pensez pas que demain on sera encore là. Qui vous dit que demain on sera là? L'homme n'a pas la maîtrise de son lendemain. Il y a des personnes qui se couchent et qui ne se relèvent plus le matin. Il y a des personnes qui se sont levées ce matin avec vous et qui n'ont pas pu atteindre cette soirée parce qu'elles sont mortes cet après-midi. Et en se réveillant ce matin, ces personnes ne pouvaient pas s'imaginer un seul instant qu'elles n'atteindraient pas ce soir et qu'elles seraient mortes soit d'un accident de circulation ou d'un problème cardiaque. Alors j'aimerais vous dire ce soir que la vie c'est une grâce qui vient de Dieu. Et lorsque Dieu donne la vie, juste parce qu'il faut donner la vie. La Bible déclare, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Ça veut donc dire, si Dieu renouvelle la vie, c'est parce qu'à travers ta vie, il veut se glorifier pour que la louange monte vers son trône. Si tu vis encore, ça veut dire que tu vas faire monter la louange. Mais le Seigneur te dit, parce que tu vis, c'est vrai que tu vis des moments difficiles, mais dans ces moments difficiles-là, je te maintiens en vie. Pourquoi je te maintiens en vie? Parce qu'à travers ta vie, j'ai besoin d'un témoignage. J'ai besoin d'un témoignage. Afin que l'on sache, afin que l'on sache qu'il est le Dieu qui change les ténèbres. C'est pas
terminé.
Tu le loueras encore. Parce que ce ne sont pas les morts qui le louent. Ce sont les vivants. Alors si Dieu dit que le vivant doit le louer, mais comment je vais le louer s'il n'agit pas? Comment je vais le louer s'il ne se révèle pas? Il se révélera. Se connaîtra. Espère encore. Lorsque tu te réveilles le matin, tu constates que ton cœur bat encore. Espère encore. Lorsque tu te réveilles le matin, mais on voit pas ta condition, tu te dis, ah, c'est encore la même journée. Non, ma soeur, non, mon frère, la Bible déclare, tu ne sais pas ce qu'un jour va emporter. Tu ne sais pas ce que la journée de demain va produire pour toi. fatalité.
Non, les choses de Dieu ne sont pas les
listes.
Dieu est trop sérieux.
Parce que tu vis. Espère. Parce que qui est le maître du souffle de vie? C'est pas le diable,
hein?
Même les Lucifériens qui leur donnent la vie là. C'est Dieu. Maintenant, quand le Dieu là. Te donne la vie. C'est pour que tu pleures, tu fasses les lamentations de Jérémie. Dieu prépare. C'est ce que nous allons voir dans ce séminaire. Dieu prépare. Le temps de fécondation, c'est la situation dans laquelle vous êtes là. C'est la situation où on pleure. On ne comprend pas. Alors vous savez qu'un temps, c'est une période. Un moment.
Mais
ce n'est pas le terminus. Tu es vivant. Apprécions la grâce de Dieu. Ça commence dans les petites choses. Nous cherchons les grandes choses, alors que les petites choses, on ne les apprécie même pas. La vie vient de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, en dépit de tout ce que vous vivez, vous avez traversé, il dit, espérez encore. Parce que Dieu prépare un temps de louange qui sortira de cette assemblée. Il dit, vous le louerez encore. Comme autrefois. Dieu ne vous a pas oublié. Il dit, vous le louerez encore. Tant que Dieu vous gardera, il prendra ses responsabilités pour vous. La promesse, c'est un ensemble de paroles que Dieu vous donne. Qui doit produire l'espérance. Et cette espérance vous maintiendra en vie. C'est-à-dire lorsque cette espérance est née, quelles que soient les circonstances que vous allez traverser, parce que cette espérance est née, elle vous maintiendra dans l'assurance. La parole donne naissance à l'espérance. Et cette espérance va donner naissance à l'assurance. Ça veut dire que quand les moments seront difficiles, l'espérance là, qui est déjà née, elle vous maintiendra. Et ça commence par le premier mystère. Christ. Vous dites que Christ en vous l'espérance de la gloire, n'est-ce pas?
Amen.
Donc vous comprenez que Christ qui est la parole
donne
naissance à l'espérance. Christ est la parole et c'est la parole qui crée l'espérance. Donc on ne peut pas avoir Christ sans avoir l'espérance. Parce que Christ est la vie. Et la vie produit l'espérance. Donc savoir déjà que Christ habite en vous là. Vous avez en vous la vie de Dieu. Et si vous avez la vie de Dieu, vous avez des raisons d'espérer que ce Dieu-là qui habite en vous, comme l'avait déclaré Job, il est votre rédempteur. Mais vous n'avez pas compris qui vit en vous. Il a dit que c'est un mystère.
saisissant.
C'est-à-dire que autrefois, l'Esprit de Dieu était accordé à certaines personnes. Il portait l'Esprit sur eux. L'Esprit repartait. Il dit maintenant je vais rentrer dans un mystère. Ça ne sera plus un temple fait de main d'homme, mais je veux me faire des temples humains où je veux faire résider ma gloire. Où moi-même Dieu, j'habiterai dans leur cœur. Ce mystère, c'est Christ. Christ dans l'homme. C'est-à-dire Dieu.
Le problème de la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que nous ne comprenons pas ça. On s'est habitué aux choses de Dieu. J'ai vu si Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Vous savez ce que ça veut dire?
Ne vous mesurez ce que ça veut dire. Ah, j'ai le Saint-Esprit. Vous mesurez ce que ça veut dire? Lorsque tu dis que tu as le Saint-Esprit. En réalité, c'est ça. Le Saint-Esprit, là, c'est Dieu dans l'homme. Nous devons réaliser ça. Nous prions un Dieu monétaire. Lui dit que je vous ai donné mon esprit. Je vis en vous. Je suis Dieu parmi les hommes. Maintenant, vous me cherchez encore. Ce mystère est grand. Christ en vous. Dieu dans l'homme. Et l'espérance glorieuse. Est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que Dieu habite en toi? Est-ce que tu sais que Dieu que nous adorons vit en toi? Donc ça commence par comprendre Christ en vous. Parce que Christ en vous, c'est lui qui est le garant de l'espérance. Si vous perdez Christ, vous perdez la vie. Et si vous perdez la vie, il n'y a plus d'espérance. Mais si vous êtes convaincu que Christ habite en vous, le témoignage de l'Esprit que vous êtes fils et filles de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite vraiment en vous, alors vous pouvez garder l'espérance. Ce n'est pas terminé. Vous savez, quand on doute comme ça là, parce qu'on n'est même pas sûr du Christ en nous, c'est triste parce que nous avons tellement vulgarisé le nom de Jésus. Nous parlons de Jésus, mais vraiment de façon superficielle. Mais nous oublions que la Bible dit que Christ dans l'homme est un mystère. Et Christ lui-même, il est la vie. Maintenant, si tu as celui qui a la vie là, pourquoi tu vas t'inquiéter? Lui-même, il a dit ne vous inquiétez. Il dit croyez en Dieu. Est-ce que nous connaissons Christ? Qui est-il? Est-il, frères et sœurs? Qui est-il?
et il vient habiter dans l'homme. Et du moment quand je prends conscience de ces réalités, je me dis, oh là là, Seigneur, j'ai tout intérêt à te prendre au sérieux. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle parle à votre esprit. Vous êtes créé corps, âme et esprit. La parole que vous recevez, elle est reçue par votre esprit. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est notre esprit qui est touché. L'esprit est touché par la parole. Notre âme médite sur la parole. Dans notre corps, nous pratiquons la parole. Mais c'est d'abord l'esprit de l'homme qui est touché par la parole. Et ton âme doit réfléchir, méditer sur la parole que tu as reçue. Afin qu'elle soit pratiquée. C'est pour qu'elle a dit mes paroles. Son esprit. Et vie. Votre esprit a besoin de la parole. Mais tout ça. Je vais expliquer cela dans les détails dans les prochains jours. Mais ce soir, j'ai tout simplement voulu vous dire que en vous, vous avez une semence d'espérance. Ça commence par Christ qui est en vous. Ça, c'est dans la dimension spirituelle. Dans la dimension naturelle, le souffle de vie que Dieu vous renouvelle chaque jour, c'est un signe d'espérance. Troisièmement, la parole de Dieu, les promesses de Dieu sont là pour vous donner de l'espérance. Parce que Dieu veut un peuple d'espérance. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à Jérémie. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur chacun de vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de l'espérance. Ne baissez pas les bras, parce que vous n'êtes pas n'importe quel peuple. Ne baissez pas les bras, parce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est votre Dieu, il est votre Père, il est votre Seigneur, vous lui appartenez. Ne baissez pas les bras, vous n'êtes pas monsieur tout le monde, vous n'êtes pas madame tout le monde. Vous êtes de Dieu. Ne baissez pas les bras. Parce que vous devez savoir qui vit en vous. Qui vit en vous? Vous savez, nous avons la mémoire courte. Facilement, nous pouvons oublier que nous sommes de Dieu. Que Dieu est avec nous. Et que Dieu est pour nous. Je reprends. Souvent, nous oublions. Nous sommes de Dieu, que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous. Lorsque nous vivons des moments difficiles, nous nous comportons comme si on était seuls. Nous avons la mémoire courte. Nous sommes de Dieu. Dieu est avec nous. Et Dieu est pour nous. Maintenant, le problème de la chrétienté actuelle, il faut intégrer les vérités de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le christianisme aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur Dieu. Mais combien parmi nous avons-nous intégré, compris toutes ces informations-là? Parole. La preuve, les dimanches, toutes les églises sont remplies. Mais ce que Satan ne veut pas, c'est que vous puissiez comprendre la parole. Vous avez écouté la parole, mais il ne veut pas que vous puissiez la comprendre. Posez la question aux chrétiens. Dimanche, on avait prêché sur quoi?
quel était le fond de la pensée. Et les personnes, après le lundi, ils ont complètement tout oublié. Ils ont entendu. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas
écouté.
Après, nous craignons que nous sommes faibles. La force de votre voix dépendra de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que vous avez compris. Je dis bien, écouter la parole de Dieu, c'est une chose. Comprendre, c'est autre chose. Et le diable,
Satana,
il va faire en sorte que vous écoutez. Mais il va créer la confusion pour que vous ne compreniez pas. C'est ce qui reste. Quand tu as compris, tu peux reformuler cela. Tu peux réexpliquer cela. Tu peux le partager à quelqu'un d'autre parce que tu as compris. Mais quand tu n'as pas compris, tu
ne
peux même pas l'expliquer à quelqu'un d'autre parce que toi-même tu n'as pas compris. Nous devons nous révolter, peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend bien de la parole de Christ?
Donc,
ce soir, on va s'arrêter là pour que nous puissions réfléchir en rentrant à la maison. Dieu veut nous parler des temps de promesses, de fécondation, mais ça veut dire quoi tout ça? Et tout cela est en rapport avec sa parole. Qu'est-ce que je dois comprendre au sujet de la parole de Dieu? Il nous rappelle que nous sommes un peuple qui avons des promesses. Et ces promesses que nous avons reçues de Dieu sont là pour que l'espérance, l'âme de l'espérance s'allume. Et pendant ces 4 jours, je me ferai le devoir par la grâce de Dieu. Cette flamme s'allume. Que cette flamme s'allume. Elle avait commencé à s'éteindre quand le Seigneur envoyait cette parole, parce qu'il veut rallumer la flamme de l'espérance. Et avec cette flamme de l'espérance qui sera ravivée, vous pourrez affronter tous les combats, les défis de votre vie. Parce que vous aurez quelque chose qui va vous maintenir en vie. Un homme, une femme qui a reçu les promesses de Dieu, on ne le tue pas comme ça. Et demain, nous entrerons en profondeur par rapport à cela. On ne le tue pas. On ne termine pas l'histoire d'un homme qui a sur sa vie les promesses de Dieu. Parce que celui qui a la promesse, les promesses de Dieu sur sa vie, il est gardé par ces promesses-là. Personne. Je dis bien personne. Ne pourra te tuer. Ne pourra mettre un terme à ta vie. Lorsque Dieu ta vie, il y a des promesses de Dieu. Mais la question, frères et sœurs, c'est que tu dois être sûr que tu as des promesses. Tu dois être sûr que tu as reçu vraiment les paroles de la parole de Dieu. Parce que si les promesses que tu as reçues ne viennent pas de Dieu, alors tu auras une fausse espérance. Et si tu as une fausse espérance, tu seras toujours déçu, frustré. Parce que tu auras bâti ta foi sur quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Chacun de nous doit être convaincu. Lorsqu'il reçoit des paroles, à vous que Dieu parle. C'est bien à toi que Dieu parle. Pas à ta voisine, pas à ton voisin, mais c'est bien à toi. Afin que tu sois sûr. Parce que Dieu te parlera, ça c'est sûr. Et non, que Dieu l'a fait de ce que je te conseillerais de faire. Lorsque tu recevras la parole, de la garder jalousement. Ne la perds pas. Garde ton espérance avec toi. Tu marches avec elle. Quelles que soient les circonstances, il y a quelque chose.
Et là,
il n'y a rien.
Et là, côté.
Les gens ne voient rien. Mais puisque l'espérance ne concerne pas le présent, l'espérance concerne ton futur. Les gens te jugent. Mais ton présent. Les gens te méprisent. C'est pas possible d'être attaché à Jésus et ne pas rendre Jésus. Ceux qui sont en Christ, ils ont un lendemain. Ceux qui sont en Christ, ils ont un futur. Qu'on ne te juge pas à cause du présent. Parce que le Dieu que tu pries, il voit la fin avant le commencement. Il voit ta position et non ta condition. Les hommes voient ta condition. Les hommes voient ta réalité. Mais Dieu, il voit ta position. Tu as une position en Christ. Tu es assis dans les lieux avec Jésus. Tu as une position. Il n'y a pas que la condition. La condition est ton bonheur. Mais ta position en Christ, personne ne peut ébranler parce que tu es en Christ. La Bible dit que tu es assis. Tu es assis dans les lieux célestes. En Christ, en Dieu, tu es assis. Personne ne va te faire tomber. Personne ne va t'ébranler parce que tu es assis. n'est pas ta condition, c'est ta position. Ton véritable toi, c'est le nouvel homme qui a été recréé en Christ. Ton véritable toi, c'est cet esprit là qui habite dans ce corps. Nous attendons la résurrection des corps. C'est pour un temps seulement que mon esprit, que mon véritable toi est dans ce corps-là qui est corruptible. Mais tu as une destinée glorieuse. Parce que la vie est là. Parce que Jésus est là. Nous allons revêtir la corruptibilité. Nous serons transformés. Nous serons sans destinée. Car il a dit ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son fils. Alors ce soir, on va prier. Ta condition parle plus fort que ta position, et c'est pas normal. C'est-à-dire que les problèmes de tous les jours parlent plus fort que ta position. Ce séminaire, c'est pour qu'il y ait une révolution spirituelle. C'est pas normal que ta condition parle plus que ta position. Tu as une position. Regarde cette position. Il ne s'est pas contenté seulement de te sauver, mais tu as connu une position. Tu es dans une nouvelle alliance avec toi. Tout ça, on va le voir, peuple de Dieu. Il n'y a pas que la condition. C'est dans la condition que dis, oh Seigneur, tu m'as abandonné. C'est dans la condition que tu dis, oh mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Ça, c'est la voix de ta condition. C'est la voix de ta chair. Mais la voix de ton esprit. Malgré les souffrances et les persécutions. Il dit, je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Il laisse parler la voix de ta position. C'est-à-dire ce que tu es devenu en Christ. Nourris-toi de ces paroles. Il y a deux livres dans votre Bible qui peuvent vous aider à bien comprendre votre position en Christ. Lisez Éphésiens. Lisez Colossiens. Les deux épîtres de Paul, Éphésiens et Colossiens. Ils prennent le temps de bien nous expliquer la position que nous avons. Avec toutes ces informations, on ne peut pas négliger ça. Il nous explique ce que nous sommes devenus en Christ. Parce que nous n'avons pas qu'une condition. Nous avons une position. On va se mettre au
bout.
Tu as une position. Position, mais tu vis dans un corps qui te conditionne. Mais le corps n'est pas le terminus de ta vie. Il y a encore des choses que tu dois accomplir avec Dieu. C'est pourquoi il te dit espère encore. Tu auras encore des raisons de louer. Et nous n'avons que le Seigneur. Alors tu vas encore prier pour dire à ton Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater toutes les choses que tu veux que je comprenne pendant ce séminaire.